Sud Radio, le grand matin week-end. Le livre du dimanche.
Le livre du dimanche, c'est Les droits de l'enfant pour les nuls, un livre de Jean-Pierre Rosenzweig, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny et membre du Conseil national de la protection de l'enfance et expert auprès de l'UNICEF. Jean-Pierre Rosenzweig, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Le titre du livre est « Les droits de l'enfant pour les nuls ». La société dans laquelle nous vivons est-elle nulle en termes de droits de l'enfant ?
Oui, plutôt, oui. Grosso modo, on a comme idée que l'enfant est un objet de plaisir. On a des enfants, c'est un objet de propriété. Éventuellement, s'il a le droit, c'est celui d'obéir. Bref, en d'autres termes, on l'a vu, pour être plus sérieux, à travers les travaux qu'on a menés auprès du défenseur des droits, lorsqu'on interroge les Français sur le statut des enfants, sur les droits des enfants, tout au plus, disent-ils, ils ont le droit à ne pas être maltraités. Bon, c'est important. Donc j'ai essayé de montrer dans cet ouvrage que, effectivement, dans la vie quotidienne, les enfants avaient des droits. Le droit à une filiation, le droit des parents qui exercent leur autorité parentale, le droit de s'exprimer, le droit d'agir, on en reparlera peut-être plus tard. Et qu'ils ont effectivement aussi des comptes à rendre, des responsabilités disciplinaires, morales, pénales, civiles. En d'autres termes, c'est plus simple que mange ta soupe et tais-toi, apprends et tais-toi.
Alors, votre livre commence avec l'explication de l'expression « élever un enfant » qui est plus que cocasse.
Ah oui, élever un enfant, c'est cocasse. Non, c'est historique.
Quand même.
Oui, on est sous l'influence, vous savez, romaine et spécialement du droit romain. Et élever de l'enfant, ça représentait l'image que le pater familias, le père de famille, prenait l'enfant au sol, le montrait à la foule, le montrait à ses proches, et en l'élevant, en le montrant, il le faisait sien, et s'il le laissait par terre, par définition, l'enfant mourait. En d'autres termes, c'était montrer que cet enfant existait et qu'il faisait partie de la famille et qu'on allait le prendre en charge et qu'il avait donc le droit de vivre, si on parle en termes de droit. Élever l'enfant, c'est effectivement le montrer aux uns et aux autres.
Alors justement, en lisant votre livre, on apprend des choses incroyables. Jusqu'au 4e siècle, les géniteurs disposaient d'un droit de vie et de mort.
Ça a été, et puis ça reste parfois dans tel ou tel endroit, une pratique où les enfants sont maltraités au point, effectivement, d'en mourir. Ça peut être des violences qui sont exercées sur les enfants, mais c'est vrai que sur l'ensemble des siècles, on a essayé de montrer que c'est pas seulement depuis peu de temps, mais petit à petit a émergé cette idée que l'enfant était un être, était une personne, devait être pris en compte, devait être respecté dans son corps, devait être respecté dans sa psyché, etc. etc. On vient de très très loin. Comme à un certain temps, j'allais dire, on avait un droit de vie et de mort sur les esclaves, sinon un droit de vie et de mort sur les femmes. Pour faire un peu rigoler, si vous voulez, parce qu'il faut dans cette approche sérieuse, il faut aussi un petit moment ludique ou de réflexion. Rappelez-vous quand même que jusqu'à peu de temps, les hommes mariés avaient non pas un droit de vie et de mort sur leur femme, mais un droit de cuissage sur leur femme. Et que le viol entre époux n'a été condamné qu'en 1995 par la jurisprudence et en 2005 par la loi. En d'autres termes, sur les siècles qui se sont écoulés et dans certaines civilisations, quelques personnes, généralement les hommes, ont un droit de vie ou de mort, en tout cas un pouvoir sur d'autres personnes, les enfants et les femmes.
Alors, Jean-Pierre Rosenzweig, le chapitre 2 de votre livre s'intitule « Quid de l'enfant ?» Bonne question, un enfant c'est quoi et jusqu'à quel âge ?
Bah écoutez, pour Tintin, l'enfant ça va de 7 à 77 ans. Pour le sociologue, le sociologue, l'enfant c'est de 0 à 15 ans. À partir de 15 ans, on parle des jeunes, de la jeunesse. La jeunesse est de 15 à 25 ans. Bon, là encore, on pourrait en discuter et rigoler. Moi, j'ai une approche politique, juridique donc politique, et je me réfère à la Convention internationale des droits de l'enfant et au droit français. La personne de moins de 18 ans est un enfant, c'est-à-dire qu'il a des droits, mais il n'a pas la capacité personnelle d'exercer ses droits, on le protège. Et puis, dans la nuit des 18 ans, là, il y a un grand miracle qui s'opère, et il devient pleinement capable et pleinement responsable. En une nuit, il acquiert la connaissance complète du droit pénal, du droit civil, du droit du travail, il s'en passe à des meilleurs, et il a pleine capacité juridique, civile et politique. Voilà, en d'autres termes, il y a un avant 18 ans et il y a un après 18 ans. C'est récent, hein ? Ça date de...
Oui, ça date de 75.
74. Ça date de 1974, l'avènement jusqu'à destin, qui, dans les 3 mois de sa prise de fonction, vous savez, a pris une série d'initiatives, notamment celle de faire passer la majorité de 21 à 18 ans, au passage laissant sur le carreau les gamins qui étaient pris en charge par les associations d'enfance, qui avaient entre 18 et 21 ans, qui se sont retrouvés majeurs sans rien avoir demandé à personne, et qu'il a fallu prendre en charge spécialement. Mais c'est récent, effectivement, que la majorité soit à 18 ans. C'est pas le cas dans tous les pays du monde. Parfois c'est 21, parfois c'est 16.
Alors justement, dans la partie 3 de votre livre, vous parlez du droit de l'enfant à son corps, vous parlez des violences familiales, mais j'ai pas trouvé dans votre livre de traces d'interdiction de la fessée dans la loi. Est-ce que c'est une violence familiale pour vous ?
Ah, elle y est. Elle y est d'autant plus que je revendique avec quelques autres d'avoir fait en sorte que, malheureusement récemment seulement, on s'est battu pendant 10 ans pour y arriver, mais que la France se rallie aux autres pays du Conseil de l'Europe qui ont condamné le recours au châtiment corporel, la gifle, la fessée, en disant qu'il peut y avoir une éducation sans frapper. On peut discuter avec quelqu'un sans crier et sans violenter. Mais il y a effectivement, j'ai fait référence effectivement à la loi de 2016, qui est venu consacrer la dynamique que souhaitait voir être suivie par le Conseil de l'Europe. Et désormais, effectivement, c'est pas une sanction, le fait de frapper un enfant, le fait de lui donner une gifle, une fessée, une simple gifle, une simple fessée, ce n'est pas une sanction pénale, c'est un interdit civil. On vous recommande de ne pas pratiquer de cette manière. On essaie de faire passer l'idée qu'il y a d'autres manières d'éduquer les enfants qu'en les frappant. Mais si effectivement on va plus loin que la fessée et la gifle, ou si la gifle et la fessée sont systématiques, là on rentre dans le domaine de la maltraitance à enfants, et là pour le coup c'est la correctionnelle ou c'est la cour d'assises.
Alors justement, être acteur de ses droits pour un enfant, c'est quoi ?
C'est pouvoir soi-même, j'allais dire, exercer. On vient de parler des maltraitances à enfants. Être acteur de ses droits, c'est le droit d'aller porter plainte au commissariat, c'est le droit de saisir un juge pour enfants pour dire je suis mal trait d'union traité ou maltraité par ma famille, et je souhaite protection. Donc peu de gens le savent, peu d'enfants le savent, je le vois à travers les dialogues que j'ai dans l'établissement scolaire, quand j'interroge les enfants sur ce point, je leur dis, est-ce que d'après vous, un enfant a le droit d'aller porter plainte au commissariat ? Et les gamins me répondent, non, surtout pas, on doit y aller avec nos parents, ben non, comment aller porter plainte contre son père qui est maltraitant ou qui vous a violenté ou violé en se faisant accompagner par lui au commissariat. Non, un enfant a le droit de porter plainte et les policiers, les gendarmes sont en devoir de recueillir la plainte de l'enfant. Il y a aussi d'autres systèmes, hein. Par exemple le 119, le téléphone vert, où on peut informer qu'on est en situation difficile. On peut aussi en parler à l'assistante sociale scolaire quand elle existe, ou on peut en parler à des amis qui vont en parler à leurs parents. En d'autres termes, l'enfant peut être acteur de sa protection, mais aussi l'enfant peut être acteur de la vie quotidienne. Par exemple, quand un enfant va, pour lui ou pour sa famille, faire des courses, acheter du pain, acheter un livre, acheter un CD, ou lorsqu'il va au cinéma, ou lorsqu'il achète une carte de transport, etc., il l'exerce son droit de contracter, c'est-à-dire d'agir dans la société civile. Un enfant peut aussi, j'allais dire, participer d'une association, voire créer une association, voire même être animateur d'une association, etc. etc. L'enfant a le droit,
donc
par
il
exemple,
peut faire
de
plein de choses.
Religion. Ah oui, il peut faire plein de choses, bien entendu, à la hauteur du fait qu'il est pas encore majeur. Il y a bien évidemment une différence entre moins de 18 ans et plus de 18 ans. Alors, la différence, elle est simple. Avant 18 ans, j'ai les droits, mais a priori, ce sont mes parents qui les exercent pour moi, les parents ou les titulaires de l'autorité parentale, qui les exercent pour moi parce que je suis censé ne pas être pleinement.
Et après, on exerce ce droit. Mais merci beaucoup, Jean-Pierre Rosenzweig, pour votre livre « Les droits de l'enfant pour les nuls » publié chez First. On vous retrouve pour le débat à 9h06. Vous serez en compagnie de Virginie Atlan et de Caroline Pilas. Confinement, les femmes et les enfants sont-ils en danger ? Et pour le moment, vous êtes 54% à dire oui sur Twitter.